ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Marie-Ève Coton. Elle est ethnopsychiatre. Depuis maintenant 15 ans, elle se rend tous les deux mois dans les communautés inuites du Nunavik pour rencontrer des patients atteints de troubles de santé mentale. Aujourd'hui, elle va nous parler de son métier et également des populations, de tout ce qui vient la porter de travailler avec ces gens-là parce qu'elle les rencontre une semaine entière. Et pendant ce temps-là, elle va en clinique et là, elle découvre des choses qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Elle sera avec nous pendant 60 minutes. Docteur Marie-Ève Coton, bienvenue à l'émission Ces gens qui font la différence. Très heureuse de vous accueillir.
Merci, heureuse d'être là.
Et je vous attrape entre des valises parce que vous, c'est votre vie.
Oui, c'est vrai, je suis revenue vendredi dernier du Nunavik, là, donc je n'ai pas tout à fait fini de terminer de faire la valise d'ailleurs.
Alors, un destin absolument formidable. Ce que vous faites depuis 15 ans vous nourrit. Je disais que ce n'est pas toujours facile, mais on va prendre à partir de votre enfance. Est-ce que ça se dessinait comme ça? On voit que vos parents, bon, vous avez un père psychologue, une mère infirmière. La Gaspésie, dans votre vie, vous connaissez la Gaspésie, vous quittez la Gaspésie. Comment ça se passe, votre enfance?
J'ai eu une belle enfance en Gaspésie. Je trouve que c'est un environnement pour l'enfance. C'est un grand terrain de jeu d'une grande beauté, la Gaspésie, avec une population très chaleureuse où les liens communautaires, les liens avec les voisins étaient très, très proches. Et le danger est comme exclu. Moi, j'ai une enfance où on ne barre pas les portes, où on rentre chez les gens facilement. Il y a quelque chose que je retrouve d'ailleurs au Nunavik, dans cette chaleur communautaire-là.
Et c'était où exactement, Gaspésie?
Moi, j'ai grandi à Gaspé. Mon père est originaire de Rivière-aux-Nord, mais j'ai grandi dans la ville de Gaspé. Je garde une amie d'enfance très proche, d'ailleurs. J'y retourne très régulièrement parce qu'on s'est racheté un petit pied-à-terre avec mes parents il y a quelques années. Donc, j'y vais au moins 3 ou 4 fois par année.
Totalement magnifique. Et les gens sont d'une chaleur incroyable, sont d'une gentillesse, les Gaspésiens. Vous partez, donc comment vous êtes comme petite fille, seule, entourée, êtes-vous tranquille, turbulente?
Non, selon ma mère, je suis une petite fille très sage, très intérieure, très introvertie. J'ai des amis, par contre, des bonnes amies, mais je ne suis pas quelqu'un de très grégaire, mais j'ai des amis de longues amitiés fidèles. Mais je suis quand même une petite fille quand même assez portée vers les arts, qui a beaucoup voulu faire du ballet, faire du violon, pris des cours de ça. J'avais cette fibre-là lorsque j'étais enfant. J'étais assez timide aussi.
Mais l'art était important.
Oui, dès le début de ma vie, l'art était important. J'avais été voir un spectacle de Margie Gillis qui était venue à Gaspé. On était chanceuse de l'avoir. On n'avait pas beaucoup de spectacles à l'époque. Ça s'est beaucoup amélioré depuis. Mais ça m'avait impressionnée. J'avais pris plusieurs années de cours de ballet et de violon également.
Quand est-ce que ça se dessine, que vous avez envie de vous diriger pour aider les autres, finalement?
Bien, je pense avec la progression là, de ma vie scolaire, tout ça, la médecine m'intéressait. C'est sûr que je repense à ça maintenant, j'ai 41 ans, je me dis, mon Dieu, qu'à 18 ans, on n'est pas outillé pour faire notre choix de carrière. Il y a tellement de choses qu'on ignore de nous-mêmes et de la vie à l'époque.
Oui, c'est jeune. Hein?
Mais j'ai l'impression. Au début, je me disais, j'ai été chanceuse parce que j'aime tellement mon métier, mais à quelque part, il doit y avoir aussi des instincts qui nous poussent sans qu'on puisse vraiment les mentaliser ou en faire une réflexion claire. Mais c'est sûr que pour moi, la relation d'aide, c'était vraiment ce qui m'attirait le plus au niveau de la vie professionnelle. Je pense que j'aurais pu être heureuse dans d'autres professions comme psychologue, travailleur social, tout ça, mais j'ai vraiment trouvé en médecine puis en psychiatrie quelque chose qui rejoignait mon essence, c'est-à-dire d'aider des gens qui me touchent, que selon moi, vivent des choses injustes, vivent des choses difficiles. C'est vraiment ce qui me porte le
Alors,
plus.
Alors, vous partez, vous quittez la Gaspésie, vous allez à l'Université de Sherbrooke. Ça se passe comment? Est-ce que vous vous adaptez bien?
Je m'adapte bien. J'avais choisi ce programme-là parce que c'était le début de l'apprentissage par problème. Donc, on n'était pas assis dans des amphithéâtres à écouter un professeur pendant des heures donner des cours magistraux, ce qui, moi, m'endormait énormément. J'avais besoin d'être plus active, plus participative dans mon processus d'apprentissage. Donc, c'était le début de l'apprentissage par petits groupes où on va voir un problème, on étudie, on va chercher dans nos livres pendant 2 jours et on revient discuter ensemble. Donc, c'était une approche plus dynamique qui m'a beaucoup, beaucoup convenu, que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est des belles années pour moi, la médecine générale, les amis que je me suis fait à cette époque-là aussi, le stress. On se demandait tous si on allait être à hauteur de cette profession très exigeante.
Il y avait des questionnements chez vous à ce niveau-là?
Oui, certainement. J'ai toujours été quelqu'un... Le doute, pour moi, c'est fertile. C'est-à-dire que je suis toujours dans le doute, mais c'est à partir de là que je trouve mon courage, ma créativité. Mais effectivement, c'est une profession très imposante. C'est une profession qui a une longue histoire, qui est beaucoup représentée dans l'univers collectif, les médias, etc. Donc, on se demande est-ce qu'on va... Et on rencontre les patients aussi, on voit comment ils sont vulnérables et on veut être à la hauteur de cette rencontre-là où ils nous exposent toute leur vulnérabilité.
Alors, vous avez vraiment trouvé votre voie sur les bancs de l'université à Sherbrooke. Comment ça se passe personnellement, étant donné que vous allez en Gaspésie? Là, vous allez tranquillement en ville, là, comme on dit.
Oui.
Votre adaptation?
Bien, moi, j'ai fait un chemin où ça a été la Gaspésie, ensuite Sherbrooke, ensuite Montréal. Donc, je suis allée un petit pas. Je pense que j'avais fait Gaspésie-Montréal, j'aurais été vraiment plus sous le choc. Mais il y a quelque chose un peu d'un gros village à Sherbrooke et où la population universitaire est très importante. Donc, on était aussi un petit campus à la faculté de médecine à Sherbrooke et comme à part du reste de l'université. Donc, on était ma classe d'étudiants en médecine, on était une centaine d'étudiants. Mais on arrivait à tous plus ou moins se connaître. Donc, il y avait quelque chose d'un peu familial, de moins anonyme peut-être que d'être perdu dans une énorme université là, avec des milliers d'étudiants. Donc, ça m'a convenu ça aussi parce que ça a fait une transition pour moi là, de la Gaspésie vers quelque chose de plus public comme habitat.
Alors, ce qui est merveilleux, quand on épouse une profession, on passe des bancs d'école, on s'en va dans une direction et ce qui aide à dire... Je suis dans le droit chemin, c'est souvent les stages.
Oui.
Et vous, c'est ce qui s'est passé réellement. Parce que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, parce que vous êtes parti en stage. Et ce n'était pas un stage à deux coins de la rue, là. Le premier, c'était en Afrique? Et puis, il y a eu aussi, vous êtes parti dans le Grand Nord. Comment ça a été historiquement, l'Afrique et le Grand Nord?
C'était aux Philippines, le premier. Ensuite, en République dominicaine. Ça a été mes 2 premiers stages. J'étais donc à l'étranger dans des contextes de coopération internationale. Et ça a été vraiment pour moi, le choc de voir, parce que c'est différent de le voir dans les médias par rapport à le voir quand tu habites dans une famille du pays, dans le cadre d'un stage où tu côtoies les habitants là-bas, tu développes même des liens avec eux, de l'attachement. Et là, tu vois le décalage entre leurs conditions socio-économiques, leurs paramètres de santé, leurs opportunités dans la vie et ceux qu'il y a autour de toi. Donc, moi, ça m'avait énormément interpellée. Je pense que le sentiment d'injustice est quelque chose qui m'interpelle beaucoup en général. Et je me voyais faire ça. Après, je me disais, je vais aller en Afrique, travailler pour des organismes là, de coopération internationale. Et c'est un peu un stage à Chichassibi chez les CRI qui m'a fait un peu dévier ma trajectoire parce que j'ai vécu là-bas un peu le même genre de sentiment.
C'est ça, vous partez de la République, vous allez dans le Grand Nord.
Oui, ensuite je suis allée dans le Grand Nord.
Et là, vous vous rendez compte que le Grand Nord, finalement, on n'est pas mieux que dans les autres pays, quoi.
Absolument, le même genre de décalage où les gens vraiment n'ont pas les mêmes opportunités dans la vie, ont des paramètres de santé beaucoup plus abîmés que les nôtres. Ont de la difficulté à pouvoir être des citoyens actifs, à faire partie de la société, de l'économie, etc. Donc, ça me fait vivre la même chose, mais là, je suis chez moi. Je suis dans ma province, je suis dans mon pays et je suis touchée de la même façon. Autre chose aussi, c'est quand je raconte mon expérience aux gens, je trouve pas que je rencontre la même sympathie parce que les Autochtones ne vont pas susciter cette même sympathie-là. Ils vont chercher toutes sortes de réactions complexes chez les gens, beaucoup de stéréotypes à savoir qui seraient dans une complaisance dans leur misère, qui seraient en partie responsables. Et ça aussi, ça m'interpellait.
Une grande injustice, quoi.
Absolument.
Alors donc, quand vous arrivez dans le Grand Nord, qu'est-ce qui vous touche?
J'ai été beaucoup touchée par cette détresse-là, où les gens étaient souffrants, bon, pas seulement de maladies physiques, etc., mais vraiment d'une absence d'espoir, d'une difficulté à se projeter dans le futur, à se voir comme faisant partie du monde, à garder de l'histoire coloniale une espèce de manque d'estime d'eux-mêmes, de non-fierté de ce qu'ils sont.
Parce qu'on leur a enlevé leur estime?
Bien, parce qu'on les a beaucoup infériorisés dans ce processus-là en disant « voici, on va vous montrer comment soigner les gens, on va vous montrer comment éduquer vos enfants, on va vous montrer ça avec des pensionnats, on va vous montrer ça, on va vous montrer c'est quoi la vraie religion, c'est pas le chamanisme. » Et donc, tout ce discours-là était un peu intériorisé par les gens où ils se sentent pas à la hauteur, souvent. Il y a une grande détresse reliée à ça.
Alors, vous savez qu'on vous choisissez vos chansons, et ça, c'est pas un hasard que vous avez choisi. Je suis très contente de l'avoir en première sélection de l'émission. Taïma, silence, mais vous devez nous dire pourquoi.
Bien, c'est une chanson, je trouve, qui me rappelle comment je suis quand je vais au Nord, parce que la jeune femme, Elisabeth Isaac, chante « Je vais t'amener où c'est silence, je vais t'amener où il fait noir, je vais t'amener dans un désert, je vais t'amener devant la mort ». Voir s'il y a encore de l'amour dans ton cœur. C'est comme ça que je suis dans le Nord. Je suis en face de choses auxquelles je ne suis pas confrontée dans mon univers et c'est là où je vois est-ce que je suis capable d'aimer ce peuple-là, est-ce que je suis capable de m'engager avec eux.
En tout cas, on sent que vous l'aimez.
Merci.
Jamais, ni qu'on dit jamais.
Alors, nous sommes en compagnie de Dr Marie-Ève Coton, ethnopsychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. C'est un grand titre.
Oui.
C'est un grand titre, mais c'est ce que vous faites. Et on va l'expliquer exactement à nos auditeurs et auditrices qui ont hâte de savoir ce que ça fait, parce que c'est vous. On reprend au niveau de l'éveil. Alors, parce que ça s'appelle l'éveil dans votre vie, avec ce peuple-là, où là, vous vous dites, mais c'est pas possible, inégalité sociale, il y a un éveil qui se fait chez vous, vous êtes revenez et vous n'êtes pas la même.
Non, tout à fait. Pour moi, c'est j'ai décidé à ce moment-là d'orienter ma carrière éventuellement vers le peuple inuit, mm-hmm. en mettant en veilleuse mes projets de coopération internationale, en me disant, ben, je vais commencer chez moi,
parce, ben oui.
puisque ça m'interpelle de la même façon, mais c'est mon peuple aussi. Et je verrai au niveau de la coopération internationale, peut-être un jour, si la situation des Autochtones est un peu différente. Donc, c'est ce qui a amené à mon engagement par la suite. Je suis toujours retournée dans le Nord comme résidente quand j'ai fait ma spécialité. Et dès que j'ai eu terminé, que j'ai gradué, j'ai continué à y aller une fois ou deux mois.
Vous faites votre spécialité et finalement, c'est un mariage du social et du médical, finalement. Vous décidez d'étudier là-dedans parce que là, vous trouvez votre voie puis vous voulez aider socialement tout en passant par la médecine.
Exactement. C'est comme ça qu'on définit la psychiatrie transculturelle ou l'ethnopsychiatrie. C'est l'intersection entre la psychiatrie et l'anthropologie, mm-hmm. où on réfléchit à comment la maladie mentale, la souffrance psychologique est influencée par le contexte social, ouais. par l'état des cultures, l'état des peuples. Exactement.
Et ça va jusqu'aux religions, aux croyances de ce peuple-là.
Absolument, qui vont façonner les croyances spirituelles, les religions, comment ils comprennent les symptômes, mmh. Comment ils vivent la maladie mentale, vers quoi ils se retournent lorsqu'ils sont en détresse également.
Alors, comment arrive cette offre, si on veut, de partir là-bas? Est-ce que c'est vous qui levez le petit doigt, vous dites, bon, ben, ça y est, je me suis trouvée, j'ai envie d'aider mon peuple, moi? Je vais dire blanche, et ça c'est important de le dire parce que vous pourriez être perçue comme quelqu'un qui vient dire quoi faire et comment faire les choses. Alors comment vous arrivez là-bas finalement?
Ben effectivement, comme il y a tout de même peu de gens qui sont prêts à aller au Nunavik, parce que bon, c'est sûr que ça demande toute une organisation personnelle de pouvoir voyager comme ça. Donc, j'avais offert mes services au centre hospitalier du Nunavik étant donné qu'il y a des problèmes de santé mentale importants, le taux de suicide qui est très élevé dans cette population-là.
Oui, 11 fois plus élevé, hein?
Absolument, c'est effarant chez les jeunes. La différence est encore plus grande. Donc, c'est un des taux les plus élevés au monde, malheureusement. Donc, on m'a engagée pour faire ça. Et j'ai été mieux reçue que je pensais par la population parce que moi aussi, j'avais cette appréhension-là de dire, mais avec toute la violence qu'il y a eu entre les deux peuples, dans la rencontre historique, l'histoire coloniale, je m'attendais à beaucoup plus de méfiance, d'hostilité, de rejet même. Et les gens sont très généreux malgré tout ça. Puis, je pense qu'il y a aussi un effet dans les petites communautés. Les gens, quand ils vivent à 400 personnes ensemble dans un village où il y a pas de route, on peut juste sortir de là par avion ou par bateau lorsque la saison le permet, d'avoir une personne extérieure à qui confier sa détresse, souvent, c'est quelque chose qui est important pour eux parce que... parce qu'ils connaissent tout le monde dans leur communauté.
Ben oui.
Alors, ils ont des fois besoin d'un regard vierge sur ce qu'ils vivent. Ils ont aussi parfois besoin de quelqu'un qui seront sûrs, qui ne parlera pas à d'autres personnes parce que c'est des petites communautés très intriquées. Donc, la position de l'étranger itinérant dans leur village, elle facilite une ouverture... pour lesquels ils expriment beaucoup de reconnaissance, en fait.
Alors, maintenant, ça fait 15 ans. Parlez-moi de votre première fois. Donc, vous arrivez, vous allez avec toute votre délicatesse. On sait qu'il y a deux hôpitaux, il y a des cliniques.
Oui.
Donc, parlez-moi de la première fois, là.
La première fois, ce qui m'a le plus surpris, bien, il y a la rencontre clinique, mais il y a aussi tout l'univers du Nord. Moi, j'ai été très surpris par la beauté du Nord. On dirait que je m'attendais à rien là-bas. Je m'attendais à quelque chose de désertique, tout ça. Effectivement, c'est de grandes étendues, mais il y a une beauté. Les villages sont presque tous situés à côté d'une baie ou d'un cours d'eau. Il y a des montagnes dans certains villages, l'étendue de neige à perte de vue, la lumière qui est toujours un peu en angle, c'est d'une beauté absolument inouïe. Et dans la rencontre thérapeutique, justement, ce qui me fascinait, c'est l'absence de méfiance des gens, où moi, j'arrivais avec tout un plan de je dirais, de rapprochement graduel, les dévoilements de trauma, les dévoilements de détresse qui venaient très rapidement, où j'avais l'impression que la vapeur était tellement accumulée avant que les gens avaient un besoin de se libérer urgent.
Alors donc, cette beauté du peuple, cette beauté du paysage, donc vous arrivez là-bas, vous restez la première fois, est-ce que c'était organisé comme ça, c'est-à-dire une semaine ou vous êtes resté plus longtemps la première année?
La première année, je faisais des visites de 2 semaines. Donc, j'y allais pour 2 semaines consécutives. Je revenais à Montréal 6 semaines et je retournais dans les mêmes villages 2 semaines plus tard. Je suis jamais restée plus longtemps que ça, mais à chaque 2 mois, je retourne dans les mêmes villages. Donc, ça me permet de faire le même genre de continuité, même de fréquence de rendez-vous que les suivis psychiatriques à Montréal, par exemple.
Et comment ça se passe, un rendez-vous là-bas, contrairement à ici?
Bien, les gens là-bas sont... Il y a une culture un peu différente. Les gens là-bas, on les appelle la journée même. Parce que c'est des gens qui sont plus dans un rapport au temps, dans l'immédiat. Si on cédule un rendez-vous là-bas 3 semaines d'avance, les gens vont avoir oublié.
Marcher.
Donc, on les appelle la journée même. Tout le monde n'a pas le téléphone. Donc, il y a des gens qu'il faut qu'on appelle par la radio ou qu'on dit à telle personne, à la coop, pourrais-tu dire à telle personne. Enfin, il y a des gens sur place du village qui travaillent pour... rejoindre mes patients qui font des choses avec une créativité qu'on n'a pas au nord, mais c'est qu'on n'a pas au sud plutôt, mais c'est le propre des villages là-bas. Là.
Alors, donc, on les appelle soit par radio.
Ouais.
Là, vous les rencontrez.
Ouais.
Comment ça va avec la langue? Parce qu'ils sont pas tous, ils parlent pas tous français ou anglais. Comment vous fonctionnez?
Pour les gens qui sont unilingues en Inuktitut, on va utiliser des interprètes qui sont des personnes qui vivent dans le village, qui sont volontaires pour venir faire la traduction. Je dirais que la majorité des gens, les gens unilingues vont être beaucoup dans la tranche des 60 ans et plus.
Okay.
Les 60 ans et moins, la grande majorité des gens vont parler très bien, la plupart anglais,
oui,
et une certaine partie également le français. Il y a aussi des gens qui, même s'ils ont une langue seconde qui n'est pas parfaite, ne voudront pas avoir d'interprète parce que justement les réalités des très petites communautés, 400 personnes, 500 personnes, ils vont connaître la personne,
ça brise le silence aussi, oui. Ça brise les confidences.
Absolument.
Alors ça doit être assez difficile de dire, de parler, de se confier, de parler des mots intérieurs, c'est déjà difficile, mais avoir quelqu'un qui est là pour témoigner tout ça... et lui demander d'avoir le silence, ça ne doit pas être facile. Alors, on va tout de suite à votre second choix musical, Richard Desjardins, « Tu m'aimes-tu ».
Oui.
Ton dos parfait comme un désert quand la tempête passe sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi, je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi, tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la mort, un envoi du ciel. J'en croyais pas mon corps. Pour moi, t'es une prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. Je dois être le vrai porteur à ton père. Une daredevil, Nefertiti, des sensations, c'est ta philosophie. D'aller coucher avec un homme taillé. Moi, te dis à ta chum, check le goc des lunettes. Je vais te gager un rhum que j'y fixe le squelette. Il est midi moins cinq et la femme de ménage est là pour faire rien que compter les naufrages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un paquebot géant dans chambre à coucher. L'océan qui veut toucher ton pied. Pense que je l'ai jeté sauvé à vie dans quelque pays, dans une vie antérieure. La fois que je t'ai dit, va pas à Pompéi. C'est quoi d'abord, si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tordu le cœur. Je t'arriverai avant que tu meurs. C'est pas pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent, tu voulais-tu me tuer? Il est midi tapant et la femme de ménage, à cogne en hurlant, je veux changer de personnage. T'es tellement, tellement, tellement belle. Je vais bénir la rue, je vais brûler l'hôtel.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, avec le docteur Marie-Ève Coton, ethnopsychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Nous en étions finalement aux premières rencontres avec vos patients qui sont là-bas. Est-ce que vous arrivez à créer des liens de longévité? C'est-à-dire que ça fait 15 ans que vous êtes là. Est-ce qu'il y a des patients qui sont les mêmes depuis plusieurs années? Comment ça se passe?
Oui, il y a des gens que je suis depuis le début. D'ailleurs, je trouve que ça donne vraiment un avantage d'être là longtemps parce que c'est vrai que les gens sont très ouverts depuis le début. C'est ce qui m'avait un peu surpris au tout début, mais tout de même, comme il y a beaucoup de roulements de personnel là-bas, des gens qui viennent, qui le font quelques années, mais qui après, pour toutes sortes de contraintes familiales, personnelles ou professionnelles, doivent cesser ce travail-là dans le Nord. Les gens sont habitués à voir partir beaucoup, les professionnels. Donc, quand on est là plus que 5 ans, je dirais, là, il y a une espèce de confiance pour les patients de pouvoir encore plus se déposer dans la relation qu'on a construite parce qu'elle est moins menacée de s'interrompre, là, comme ils ont connu peut-être avec d'autres professionnels. Donc, je trouve que la confiance des personnes avec le temps augmente davantage. Puis nous, c'est comme si les couches de complexité de ce peuple-là aussi se lèvent les unes après les autres, puis on a plus de perspectives. Puis je suis sûre que c'est pas terminé, là. Mais moi, je trouve que je comprends plus aussi en profondeur les enjeux avec les années, là, de plus en plus.
Et puis, il y a l'histoire qui est derrière. On peut pas la mettre de côté. Je veux dire, ce qu'ont fait nos gouvernements en ce moment, ce qu'ils ont fait à l'époque, je veux dire, l'histoire des orphelinats, c'est absolument épouvantable. Et ça, c'est resté dans les gènes. Je veux dire, c'est des gens qu'on a plus que brisés, on les a cassés. Et ça, j'imagine que ça fait partie de l'histoire psychologique de ce peuple-là, qu'on vous en parle.
Absolument. On encourage beaucoup les gens, par exemple, un exemple de ce que vous mentionnez, l'institution scolaire, malheureusement, est encore empreinte, je dirais, du fantôme des pensionnats, où il y a eu énormément de traumas, d'abus qui ont eu lieu, c'était une école qui était vraiment visée ouvertement assimilatrice. Donc, lorsqu'on encourage les gens maintenant à se scolariser, à aller au sud dans les écoles, à apprendre une profession, à devenir eux-mêmes des médecins, des infirmières, des professeurs, mais ce fantôme-là est encore là. Ils ont encore cette méfiance à savoir, bon, est-ce qu'ils perpétuent un processus d'infériorisation de ce qu'ils sont. Donc, malheureusement, les fantômes sont encore bien vivants.
Oui, puis vous l'avez dit aussi, ça m'a beaucoup touchée, ce que vous avez dit en début d'émission. Vous avez dit, bon, quand je suis arrivée, j'ai fait mon stage dans le Nord et les gens ne me croyaient pas. C'est-à-dire, les Blancs ne me croyaient pas que c'était extraordinaire, qu'il y avait des choses à faire. Donc, il y a encore cette étiquette-là, là, de racisme.
Absolument. C'est malheureux, mais c'est le cas. C'est vraiment une population qui suscite des réactions, je dirais, dans toutes les directions, mais dont dans la direction parfois du mépris, de penser qu'ils ont droit à des privilèges indus, que les exemptions de taxes, d'impôts dont bénéficient les Amérindiens, que c'est des choses qui sont un poids collectif épouvantable, qui nous appauvrit, qu'il n'y a pas de justification historique ou sociale pour ça. Donc, il y a beaucoup ces stéréotypes-là, de penser à des gens violents, à des gens criminels, à des gens malhonnêtes, etc. Et ça, c'est malheureux. Je pense que c'est difficile pour nous aussi. Je me suis beaucoup questionnée sur pourquoi cette tâche aveugle-là envers les Autochtones. Mais je pense que, historiquement, c'est difficile pour nous de regarder en arrière et de nous voir dans un rôle d'agresseur ou d'oppresseur face à une culture. C'est évidemment pas quelque chose qui est facile à regarder, qui est facile à porter, ce côté-là de l'histoire.
Pourtant, ça existe.
Absolument, et on a tendance à l'occulter.
Alors, vous avez parlé du suicide, on en parle. Bon, le chiffre est élevé, oui. 11 fois plus qu'ici. Record mondial, surtout les garçons.
Oui.
Et ce qui est un petit peu inusité, mais pas dans le bon sens du mot, c'est que dans une famille, il peut y avoir plusieurs personnes qui se suicident.
Oui. J'ai une patiente que j'ai suivie pendant des années, en fait, que j'ai été changée. Il y a un village que j'ai changé il y a un an, donc j'ai arrêté de la suivre comme ça, mais je l'ai suivie pendant plus de 10 ans. C'est une femme qui avait un frère et 2 fils qui s'étaient suicidés. Et donc, pour elle, c'était un enjeu qu'on a travaillé énormément parce que ça questionne un peu, mais jusqu'à combien de deuils aussi proches est-ce qu'un humain peut métaboliser? Donc, quelle est la limite de ça? Et ça m'a énormément touchée cette année parce qu'elle m'a trouvée sur Facebook et elle m'a écrit un message sur Facebook. On n'a pas besoin d'être amis avec quelqu'un sur Facebook pour lui envoyer un message si on l'identifie. Oui. Donc, elle a reconnu mon visage et elle m'a envoyé un message me disant que son dernier fils vivant s'était suicidé. Donc, un troisième fils suicidé cette année. Donc, c'est 4 personnes proches d'elle qui ont commis ce geste-là et elle qui reste comme survivante de toute cette charge. Et c'est une personne que je trouve extraordinaire parce qu'elle arrive à composer quand même avec ça, qui s'appuie sur son époux, qui pour elle est une des sources de sa résilience, qui s'appuie sur sa foi en Dieu, qui est aussi une autre des sources de sa résilience. Mais autant j'ai pu voir de la misère dans le Nunavik et j'en vois encore, autant je vois des forces ou des individus comme ça, exceptionnels, résilients, qui arrivent à survivre à des charges d'adversité que je n'ai pas vues ailleurs.
Alors, le pourquoi? Parce que, bon, il y a dans la psychiatrie, il y a des maux qui sont réels. Hein, vous faites face à la schizophrénie. Il y a parfois aussi une méconnaissance des cultures, on pense que c'est des voix intérieures, des chamans. Mais qu'est-ce qui explique ce nombre de suicides, d'après vous?
Le taux de suicide des gens avec une grande pathologie psychiatrique comme la schizophrénie ou une maladie bipolaire au Nord est semblable à ce qu'il est au Sud. C'est environ 10 % des gens avec ces maladies-là qui vont se suicider. Donc, c'est un des enjeux, mais la majorité des gens qui vont se suicider au Nunavik n'avaient pas un diagnostic de psychopathologie majeure comme ça. C'était des gens dans les déclencheurs là, les plus associés statistiquement au suicide, il y a la, la rupture amoureuse récente et les problèmes d'alcool et de drogue qui sont beaucoup utilisés comme anesthésiens, je dirais, à la douleur psychique, à la douleur sociale dans le Nord, mais qui malheureusement désinhibent lorsqu'on est sous l'influence des substances, donc parfois des choses que l'on retient, qu'on essaie d'endurer depuis longtemps vont se libérer, vont libérer des impulsions lorsque les gens consomment. Puis au niveau de la rupture amoureuse, comment on essaie de comprendre ça? Bien, c'est des gens où, comme les possibilités d'emploi puis les possibilités de se développer au niveau professionnel sont très limitées là-bas parce qu'il y a peu d'emplois disponibles, il y a peu de développement économique qui se fait. Et comme l'identité collective, la fierté culturelle, tout ça est très abîmé, les gens se définissent beaucoup par les relations amoureuses. On devient quelqu'un quand quelqu'un nous aime. C'est comme ça qu'on se sent exister, c'est comme ça qu'on sent la joie, le bonheur. Donc, les gens ont moins de choses sur lesquelles, je dirais, s'appuyer diverses dans leur vie. Donc, lorsque une rupture amoureuse vient faucher ce qui nous donnait notre oxygène là, dans la vie, bien, les gens sont souvent en proie à des désespoirs très, très, très violents.
Donc, est-ce qu'il y a plus de suicides par passion amoureuse?
Oui, par suicide, par déception amoureuse, par événements de la vie, je dirais, qui ne sont pas nécessairement une maladie mentale, mais que les gens vont dans un élan à ce moment-là de désespoir ou de découragement vont passer à l'acte.
Alors, c'est intéressant parce qu'on est rendu à votre autre choix musical de Stromae, Papa Outé, et on va en parler. Je veux savoir pourquoi, mais on va en parler de la paternité là-bas, du rôle masculin.
Oui.
Mais dites-moi pourquoi cette chanson?
Cette chanson-là, je trouve, et le vidéoclip, si on a eu la chance de le voir, est une poésie visuelle sur l'importance du père, l'importance du parent, même au sens large, et les effets dévastateurs que peut avoir sur un enfant l'absence de ce parent-là, physique ou psychique.
On l'écoute.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah oh, sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah oh, sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit
faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Outé, papa, outé, outé, papa, outé, outé, papa, outé, 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 papa, outé, outé, papa, outé, outé, papa, outé, outé, papa, outé, 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 papa, outé.
Docteur Marie-Ève Coton est nous, psychiatre, est avec nous en studio. Alors justement, où est ton papa? Où est cette fibre paternelle qui est transformée en 2015? Ça se fait partout. L'homme se cherche et l'homme se cherche là où vous faites votre pratique. Ça a l'air que ce n'est pas évident parce que le pourvoyeur se cherche vraiment.
Oui.
Il se cherche une identité et c'est un des problèmes.
Absolument. Chez les hommes inuits, je dirais qu'on sent cette crise-là de façon très aiguë. Il faut dire que la sédentarisation, le changement de mode de vie des Inuits est très récent dans l'histoire. Ça s'est fait dans les années 60, donc ils ont dû s'adapter très rapidement. Et là, on sent vraiment une errance puis une difficulté à se réidentifier chez les hommes. Donc, il faut dire qu'au niveau traditionnel, ils avaient un rôle de pourvoyeur très fort. Ils défiaient la mort, à la chasse dans des conditions météo, dans des conditions environnementales extrêmement hostiles.
Mm-hmm.
Et donc, maintenant, ces habiletés-là, qui étaient géniales, qui étaient incroyables, ne sont plus utiles dans le mode de vie moderne. Et la femme garde une certaine continuité, je dirais, dans le rôle de la maternité, qui mm-hmm. était présent dans la société traditionnelle, qui l'est encore, qui est encore valorisée. C'est moins vrai pour l'homme. Pour l'homme, les repères sont beaucoup partis, et donc il y a une recherche de masculinité, parfois, qui va se faire à travers la violence pour essayer de retrouver quelque chose de fort, de puissant, d'une puissance, mais qui ne trouve plus de finalité là, dans quelque chose de l'ordre de la survie ou du pourvoyeur. Donc, il y a beaucoup de détresse chez les hommes.
Et est-ce qu'ils vous le disent, ces hommes-là? Est-ce qu'ils vous parlent de ça, de dire « je me sens inutile, je me sens... j'ai perdu mes repères », est-ce qu'on vous en parle?
Oui, on m'en parle, puis on va dire beaucoup « j'aimerais travailler, mais je trouve pas ». Il y a vraiment une soif d'être encore utile, d'être encore important, d'être encore généreux envers la famille, envers la communauté, mais une incapacité de trouver comment ce don-là de soi, cet accomplissement de soi pourrait se faire maintenant.
Oui, la transhumance obligatoire d'aller plus tard, je dis obligatoire parce que les gens doivent étudier à l'université en ville. Bon, quand ils arrivent à Montréal, c'est quasiment catastrophique. Ils se retrouvent tout seuls alors qu'ils étaient plusieurs dans une maison. Et Dieu sait qu'on est dans une société individualiste. Oui. Est-ce que ça explique ce auto-détinérance, cette façon de se dire, voilà, moi, je viens ici soit pour étudier ou pour trouver du travail par obligation, mais je ne suis plus avec mon peuple, je vais habiter tout seul. Dans un sens, c'est bien de se retrouver un petit peu tout seul, mais c'est peut-être trop tout seul. Est-ce que ça explique cette détresse psychologique et qui va très loin? La pauvreté est là et c'est un cercle vicieux, finalement?
Oui, c'est sûr que c'est difficile pour les gens, l'exil, parce que c'est... Autant on a un choc quand on arrive au Nunavik, on a l'impression de visiter un autre pays tellement la façon de vivre est différente, les conditions sociales sont différentes, bien, ils vivent le même choc lorsqu'ils viennent ici. Donc, les repères sont vraiment perdus, les mœurs ne sont pas les mêmes, les habiletés ne sont pas les mêmes, les conditions de vie, et ils ne sont pas nécessairement non plus bien perçus. Il y a quand même une méfiance de beaucoup de gens à l'égard des Autochtones, donc je ne pense pas non plus qu'ils sont... je pense qu'ils sont aussi victimes parfois de discrimination, pas de la part de tout le monde, mais certainement de certains. Donc, ça diminue les opportunités.
Alors, donc, ils ont pas d'amis, ils se retrouvent tout seuls finalement, pas de travail, puis là, ça...
C'est sûr qu'il y a des gens qui réussissent bien, il y en a toujours qui réussissent tout de même, donc qui arrivent par leurs habiletés à se réadapter. Ça prend un certain temps, mais il y a beaucoup de gens aussi qui glissent, je dirais, qui ne trouvent pas non plus preneur ici, qui n'arrivent pas à bien s'insérer.
Et ceux qui s'insèrent pas bien ici? Est-ce que vous les suivez à Montréal? Est-ce que ça vous interpelle et vous voulez les suivre? Comment ça fonctionne dans votre pratique?
Actuellement, on n'a pas développé à Montréal de services spécifiques pour les Autochtones. Donc, on va les soigner dans les communautés, mais c'est un problème. Et on en a parlé, les différents psychiatres qui vont dans le Nord, on en a parlé, mais ça ne s'est pas encore concrétisé de développer quelque chose à Montréal. Mais pour l'instant, les gens vont dans les hôpitaux, dans les services généraux de santé mentale de la ville là, qui sont indépendants, qui soient de quelle origine les gens sont.
Alors, vous pratiquez ici. La différence, comment ça se passe entre vos séjours au Nunavik?
Bien, au Nunavik, j'ai une pratique générale, c'est-à-dire que je vois tous les gens qui ont besoin d'un service psychologique. Ici, à Montréal, j'ai une pratique spécialisée parce que je suis dans un hôpital universitaire, donc on fait de l'enseignement, donc on fonctionne par programme spécialisé. Donc ici, je travaille dans un programme spécial à l'Institut universitaire en santé mentale pour les gens qui souffrent de schizophrénie résistante. Et la particularité du programme, c'est qu'on va les suivre à domicile, on va les rencontrer à domicile parce que c'est des gens qui ont été hospitalisés à plusieurs reprises et qui reviennent en porte tournante à l'urgence. Donc, on essaie de leur donner le maximum de soins chez eux pour essayer de les outiller le plus possible à rester dans la communauté.
Vous seriez politicienne, vous changeriez quoi au niveau de votre pratique et au niveau des conditions sociales de vie?
Bien, je pense que le Nunavik, je pense que la santé passe aussi par le développement économique, cette soif-là qu'ont les gens de faire partie de la société, d'être productif, de faire partie des décisions aussi. Donc, c'est sûr que je donnerais plus de place aux Autochtones dans la détermination de leur propre développement et je ferais de l'investissement économique au Nord, mais dans lequel ils seraient participatifs et non pas des subordonnés, non pas dans une optique impériale. Et j'augmenterais le soutien psychologique également au Nord. Il y a un seul psychologue qui est présent dans tout le territoire du Nord. C'est nettement insuffisant.
Un seul psychologue?
Oui.
Ouf, oui. Au niveau de l'intégration, il n'y a pas un manquement des Blancs à ce niveau-là?
Bien, je trouve qu'on est... ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on n'a pas cette célébration-là d'être privilégié, de partager le territoire avec les Autochtones, cette célébration-là de notre héritage des Autochtones, des Inuits aussi. Ils font partie de nous. On s'est métissés au niveau génétique, on s'est métissés au niveau culturel, on s'est métissés au niveau historique. Et je trouve que si on était plus curieux, si on s'intéressait davantage à ça, à travers l'art, à travers l'histoire, à travers l'actualité, pas juste dans le rapport folklorique aux Autochtones, mais vraiment tout ce qui les constitue, effectivement, je pense que cette ouverture-là pourrait être plus grande de notre part, qu'ils se sentent bienvenus, qu'ils se sentent qu'on est fiers de partager le territoire avec eux, qu'ils sont pas seulement, qu'on les plaque pas dans une identité de victime ou de gens abîmés ou de gens qui sont un poids pour la collectivité, mais qu'on soit fiers de ça.
Et justement, ça pourrait être plus fort pour le rapprochement. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme rapprochement qu'on fasse? Parce que vous l'avez dit dans l'émission, le mot racisme est sorti, les étiquettes sont toujours présentes. Oui. Il y a ces mots qui sont là et c'est vrai, c'est réaliste. Comment on pourrait faire pour qu'on se rapproche plus?
Bien, je pense que c'est quitter notre position d'imposition de savoir, d'enseigner aux Autochtones ce qu'ils devraient être, mais de s'intéresser à ce qu'ils ont à nous enseigner, à ce qu'ils ont à nous apprendre, leur façon de voir la vie, leur façon de voir l'environnement, leur façon de voir la mort, la spiritualité. Les écouter, qui sentent qu'ils ont quelque chose d'intéressant à dire, parce que c'est le cas. Ils m'ont beaucoup appris, ils m'ont beaucoup intéressé, les Inuits. Alors, le faire collectivement, je pense que ça leur donnerait une voix.
Justement, vous dites « ils m'ont beaucoup appris ». En un mot, vous diriez quoi sur eux?
Des gens honnêtes, vrais, résistants, en devenir attachants.
Alors, on fait une pause et on revient avec le jeu questionnaire de la fin d'émission. Docteur Marie-Ève Coton, quelles sont les personnes qui vous ont inspirée?
Beaucoup de personnes dans ma vie. Là, je dirais que la personne avec qui j'ai fait mon fellowship en psychiatrie transculturelle, Cécile Rousseau, qui est une ethnopsychiatre également, qui travaille avec les familles, avec les enfants, et quelqu'un qui est, je dirais, au niveau clinique, la plus grande humaniste que j'ai vue dans ma vie. Et quand j'ai une espèce d'essoufflement ou quand j'ai l'impression de me battre contre des moulins dans mon travail, je vais voir une conférence où je vais la voir et on dirait que ça recharge mes batteries d'humanisme.
Quels sont vos mentors?
Je dirais qu'elle est certainement un mentor. J'ai aussi un mentor à l'Institut universitaire en santé mentale, Dr Daniel Bordelot, avec qui je fais des groupes de discussion, de supervision, de psychothérapie, où quand il y a des patients qu'on rencontre qui sont complexes ou quand on trouve que justement les gens très traumatisés, on essaie de trouver un sens à tout ça, c'est quelqu'un avec qui il y a une discussion possible et c'est un mentor pour moi.
Quels sont les livres que vous nous recommandez?
Je recommande à peu près tout ce que Romain Gary a écrit. C'est mon auteur favori. Quand je lis un livre de lui, je ralentis à la fin pour que ça dure plus longtemps. je pense que si on en lit un seul, on lit la vie devant soi.
Alors, vous avez toute la collection. La vie devant soi, bon, vous le... D'accord.
Ça serait mon premier choix de lui. Ouais.
Vos artistes préférés?
Lui, comme écrivain également, John Fante, Julian Barnes, Charles Bukowski... au niveau des cinéastes, Roman Polanski, Alejandro González Iñárritu. En musique, les gens que j'ai présentés, Richard Desjardins, Elisabeth Isaac, Stromae, Sigur Rós. Oui, c'est mes favoris.
Vos favoris. Vos villes préférées et pourquoi?
Je dirais ma ville préférée, c'est Rome, je dirais, pour la densité de culture. On dirait que partout où on se retourne, il y a un Michel-Ange, il y a un Raphaël. C'est incroyable, la densité de culture qu'il y a là. Le rappel du passé aussi, on s'aperçoit quand on va là qu'on est un pays très jeune parce qu'il y a des rappels de ce passé-là que la ville porte, qui est magnifique.
Donc, celle-ci ou il y en a une autre?
J'aime beaucoup New York aussi. C'est sûr que j'y suis allée plus souvent, c'est plus accessible... évidemment de Montréal, mais il y a une énergie à New York. On dirait qu'on pas possible de dormir là-bas. On n'a pas le temps. Il y a pas de... on ressent pas la fatigue.
C'est la frénésie.
C'est la frénésie de New York qui est magnifique.
Un quartier particulier dans New York?
Oh mon Dieu, j'aime beaucoup Tribeca. J'aime beaucoup... Oui, Tribeca, c'est le dernier où j'ai demeuré la dernière fois. Puis je sentais vraiment une belle ambiance dans ce quartier-là.
Merci beaucoup pour cette belle entrevue, Dr Marie-Ève Coton. Et vous repartez bientôt?
Oui, je vais repartir dans le mois d'avril pour le Nord.
Et bravo pour ce que vous faites. Vraiment, c'est une fierté, vraiment.
Ça m'a fait plaisir.
Merci. Merci à mon équipe, Jean-Sébastien Laliberté, à la réalisation de l'émission. Et puis ma recherchiste Christiane Campagna et Claudia Benoît aux médias sociaux. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bye-bye. Thank you.